Cette émission vous est présentée par OM3, la marque spécialiste des compléments alimentaires riche en oméga 3. Tout va bien. Mangeons. Déborah Ohana sur Nutri Radio.
C'est un bonheur chaque semaine de retrouver Déborah Ohana sur Nutri Radio. Bonjour Déborah.
Bonjour Fabrice.
Ah, ça me rend zen, ça nous rend zen. On est là, on est bien. Alors que tout le monde veut nous stresser, on réussit à être dans notre petite bulle sur Nutri Radio. Et encore plus, c'est la bulle dans la bulle, Déborah Ohana. Vous voyez, faites des bulles de savon, c'est beau. Mais une bulle dans la bulle, encore plus beau. Vous vous rendez compte quand même, c'est magnifique. C'est pas facile à faire.
Magnifique.
Et bien, c'est ce que vous arrivez à faire chaque semaine sur Nutri Radio. Et on vous en remercie pour avoir une relation apaisée. Le mot paix est important. Franchement, on est dans un monde perturbé. On est apaisé déjà de l'intérieur grâce à l'alimentation. Et notre le rapport qu'on peut entretenir avec elle, c'est avec Déborah Ohana. Et cette semaine, Déborah, vous voulez nous proposer un thème très spécifique. Le lien entre l'alimentation et les émotions, ou la manière dont on mange, si on mange par les émotions, c'est ça ?
Oui, j'aimerais qu'on voit un petit peu les points importants à connaître, à savoir quand on mange par émotion. Vous savez, l'alimentation émotionnelle qui est différente de l'alimentation réconfort, la nuance est subtile, mais c'est vraiment différent. L'alimentation émotionnelle, c'est vraiment l'action d'aller manger pour calmer ou faire taire une émotion. Et c'est un comportement alimentaire qui est très, très fréquent et qui est assez problématique. Je dirais vraiment que près de 80% de mes patients en souffrent. Outre le fait que ce comportement participe à leur faire prendre du poids sur le long terme, ça les plonge dans un vrai mal-être et ça les empêche d'avancer sur leurs difficultés. Donc certains points peuvent être intéressants à connaître et peuvent parfois aider à réduire ce comportement émotionnel avec une meilleure prise de conscience. Alors très souvent ça ne suffit pas, mais ça peut permettre, la prise de conscience a aidé certains de mes patients, moi, à réduire ce comportement. Et donc j'aimerais aujourd'hui qu'on en relate quelques-uns de ces points qui vont certainement clarifier peut-être des choses pour certains ou rappeler des choses pour d'autres.
Ah bah oui, ça 80% vous dites de vos patients qui souffrent de ça ?
Ah ouais, c'est très fréquent, vraiment très fréquent.
Ah, c'est fou ça, c'est-à-dire que une émotion, on veut la faire taire, boum, un aliment.
Ouais, une émotion difficile, par exemple le stress qui est rattaché à la peur, les personnes qui stressent beaucoup au travail vont aller manger, souvent c'est du sucre dans ces moments-là, donc ça peut être du chocolat, des bonbons, des gâteaux, c'est tellement difficile pour eux, en fait, qu'ils vont manger pour essayer de calmer l'émotion, pour que ce soit plus facile à vivre.
C'est vrai.
Mais c'est vrai. Non, mais vous n'avez pas des amis comme ça ?
Mais si, non, mais des amis, moi-même, hein, je pense que ça nous arrive à tous. Des moments, des petits coups de... on a tous cette image, d'ailleurs. Regardez, Bridget Jones, encore une référence. Je ne sais pas si ce film, il est vieux. Ça vous dit quelque chose, Bridget Jones ?
Oui, bien sûr.
Bon, ça ne va pas. On met une musique triste, déjà. Donc, la musique, boum, pour se mettre encore plus la tête dans le seau. Et puis, non, mais c'est vrai.
Ça a moins d'impact.
Et en fait, on mange n'importe quoi.
Ouais.
Et donc ça, c'est typiquement une émotion négative et boum, on se réfugie dans la nourriture.
C'est pas une émotion négative parce qu'il n'y a pas d'émotion négative, c'est une émotion qui est difficile à ressentir. Et donc, il faut savoir que quand on fait ça, on a l'impression que l'émotion disparaît, mais en fait, elle ne disparaît pas. Elle est juste en dormance. Ça veut dire qu'elle va revenir plus tard, plus fort. Et souvent, effectivement, l'intensité va être encore plus difficile à ressentir. Ce qui est logique, hein, puisque quand on mange pour calmer une émotion, en fait, on ne va pas répondre aux besoins derrière. C'est de la fuite, on appelle ça de la fuite émotionnelle. Ça vous parle ce mot, ce terme ?
Vous savez, nous les hommes, la fuite, on connaît.
Oh, le stéréotype.
Je plaisante, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent cette radio, c'est pour me faire ami des femmes, vous voyez.
Mais oui.
Ça peut vous faire plaisir.
C'est la base.
C'est la base. Ça peut vous faire plaisir, je nous traite de lâches. Il n'y a pas de problème. Non, mais je vois, donc ça veut dire que quand on mange, lorsqu'on a une émotion, ça n'arrange rien.
Ça n'arrange rien du tout. On a ce sentiment de mieux-être parce que quand on mange, on va le voir tout à l'heure, on sécrète de la sérotonine, mais en réalité, l'émotion n'a pas disparu. Elle est juste calmée très temporairement, mais elle revient tout le temps, plus fort après. Et donc, c'est le premier point à savoir, ça. C'est vraiment que ça ne permet pas de la faire disparaître quand on mange par émotion. Après, là, on parle de l'alimentation émotionnelle, mais c'est un peu le même schéma que quand on va fumer, vous savez. Si vous fumez alors que vous êtes stressé, en fait, c'est une mauvaise régulation des émotions. Si vous buvez alors que vous ressentez une émotion, c'est pareil. C'est le même fonctionnement, c'est le même schéma de comportement.
D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si on ne mange pas alors quand on a cette émotion ?
Si on ne mange pas, quand on ressent une émotion difficile, l'intensité du ressenti émotionnel diminue progressivement, naturellement, sans rien faire. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît, hein, cette émotion, parce qu'elle ne va pas disparaître, mais ça va se calmer naturellement jusqu'à être plus facile à supporter intérieurement pour nous. Donc ça veut dire que nos émotions se régulent toutes seules, sans faire quoi que ce soit. On n'a pas besoin en fait d'aller manger ou boire ou fumer pour qu'elle se régule. Donc ça ne veut vraiment pas dire qu'elle disparaisse, mais vraiment que l'intensité ressentie dans notre corps est plus calme pour nous. Et une fois que c'est plus calme, là on peut aller mettre en place une action différente pour répondre aux besoins spécifiques qui est caché derrière l'émotion.
Bien, Déborah, on va marquer une toute petite pause et on se retrouve pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
Les oméga 3 sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps. Alors pour vous supplémenter, autant prendre la meilleure des qualités. OM3, votre spécialiste des compléments alimentaires riches en oméga 3 formulés à base d'huile de poisson sauvage purifiée. OM3, des oméga 3 à la biodisponibilité optimale et certifié Friend of the Sea. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une vision normale. L'EPA contribue à une fonction cardiaque normale. Plus d'infos sur om3.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Tout va bien. Mangeons. Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Déborah Ohana, tout va bien, mangeons sur Nutri Radio. L'alimentation émotionnelle, on en parle avec vous. L'alimentation émotionnelle, c'est le fait de manger en réaction à une émotion difficile. Alors vous, Déborah, m'avez recadré tout de suite quand j'ai dit négatif tout à l'heure. Vous avez dit pop, qu'est-ce que c'est que ce mot ? Pourquoi vous m'avez dit ça ?
Mais oui, parce que c'est une expression que j'entends souvent et qui m'énerve. En fait, il n'y a pas d'émotions négatives et elles sont toutes utiles, nos émotions. Elles sont désagréables à ressentir, elles sont douloureuses à ressentir pour certaines, mais elles ont absolument toutes une utilité. Donc, c'est pas négatif. C'est pas parce que ce qu'on ressent est difficile que c'est forcément négatif.
La sagesse de Déborah Ohana. Non, mais vous me direz où est-ce que vous avez fait votre stage Ayurveda 4e Dan ? Parce que là, on est dans du haut niveau. Là, c'est la ceinture noire. C'est bon,
au moins.
Bien.
Au moins. Au-dessus de la ceinture noire, il y a quoi au-dessus ? Il y a quelque chose au-dessus ?
Mais comme dirait l'autre, il y a au-dessus, voilà, il y a vous. Et à vous, il y a Déborah Ohana. Donc, l'alimentation émotionnelle. Alors, et qu'est-ce qui se passe quand on répond à une émotion par la nourriture ?
Quand on va manger, en fait, ça empêche justement cette régulation naturelle qu'on a vue juste avant. Là. Ça crée un sentiment de panique pour notre corps et ça nous empêche de répondre aux besoins spécifiques puisqu'on fuit finalement. Donc, je rappelle que nos émotions, c'est des reflets de besoins précis qui ne sont pas satisfaits. C'est-à-dire qu'on a un besoin très spécifique. Si on ne va pas y répondre, il y a une émotion qui se déclenche. C'est souvent parce que c'est en lien avec nos valeurs de vie. Si ça a touché à une de nos valeurs de vie. Si on ne répond pas à ce besoin précis, l'émotion perdure, revient sans cesse, non-stop. C'est un peu une sorte de boucle, quoi. On est coincé dans un engrenage émotionnel.
Ah oui,
ça vous parle ?
Bah oui, ça parle, mais ce n'est pas des engrenages vertueux. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi à ajouter là-dessus, sur les côtés un peu négatifs ? Ah non, je n'ose plus utiliser le mot négatif.
Oui, un point important aussi, c'est que nous. Alors, il faut savoir que quand on mange, je pense que je l'avais déjà abordé, on sécrète de la sérotonine. Vous savez, c'est un neuromédiateur, la sérotonine, qui nous permet de ressentir rapidement un sentiment de mieux-être, un sentiment malheureusement éphémère. Et ça explique la raison pour laquelle les personnes qui mangent par émotion réitèrent à chaque fois. Parce qu'elles ont l'impression que ça fonctionne en vrai. Mais elles n'ont pas totalement tort. Ça fonctionne à très, 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 très court terme. Elles se sentent mieux. Mais à moyen long terme, ça ne marche pas. Puisque ça, le sentiment de bien-être ne reste pas. Et l'action qui est nécessaire à mettre en place pour répondre aux besoins n'a pas été mise en place, quoi. Donc en fait, ça ne dure qu'un moment, ce sentiment de mieux-être.
Ouais, c'est déjà ça de gagner. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit s'entraîner à gérer nos émotions ? Qu'est-ce qu'on doit faire ?
Et oui, c'est très important. Donc, plus on va s'entraîner à accueillir les émotions, même les plus difficiles à ressentir, plus ça sera facile pour nous lorsqu'elles se manifesteront à nouveau. Et donc, en plus, on va pouvoir aller répondre aux besoins qu'elles signalent. C'est vraiment la base de notre évolution personnelle. Nos émotions nous aident à évoluer vers le chemin qui est en accord avec nos valeurs de vie. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucune émotion qui est négative. Elles ont toutes, vraiment toutes une utilité. Et donc, si elle se manifeste, l'émotion, c'est qu'on est en désaccord avec ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut mettre en place une action concrète.
Ah, il faut rester concentré sur l'émotion, pas la fuir. Et plus tôt on l'accueille, plus tôt elle va être digérée, si je puis dire.
Et oui, alors bien sûr, en théorie, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais au début, c'est pas évident. Mais plus on prend l'habitude, plus on persévère et plus ça devient simple et facile à terme.
On va marquer une dernière pause. Et la suite de cette émission, c'est dans un instant.
Tout va bien. Mangeons. Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Déborah Ohana sur Nutri Radio. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, mesdames, messieurs, de manger suite à une émotion difficile? Un chagrin d'amour, boum, la tête dans le frigo et on se fait une bonne bûche, par exemple. Un petit stress, boum, on va chez le boulanger et on revient chez les choix. La baguette, elle est déjà plus bas, elle est déjà consommée parce qu'on a un stress professionnel. C'est ce qu'on appelle donc l'alimentation émotionnelle et c'est ce dont parle Déborah Ohana aujourd'hui avec les limites qu'elle peut y voir et qu'elle souligne parce que voilà, il faut accueillir les émotions. C'est ce que vous nous disiez, Déborah, quand même.
Oui, exactement. Les accueillir, ça ne veut pas dire les faire disparaître. Et donc, les points qu'on souligne là, je pense que c'est des points qui sont importants à savoir. Et parmi ces points, il faut savoir qu'on n'a aucun pouvoir, absolument aucun pouvoir sur nos émotions. Alors qu'on ne peut pas décider qu'elles viennent ou qu'elles ne viennent pas, ou les empêcher de venir ou de se manifester. Donc, si nous pensons y arriver temporairement, c'est vraiment une illusion. Car l'émotion revient tout le temps. Ou alors, elle se somatise dans notre corps. Vous savez, vous pouvez avoir des douleurs qui apparaissent un peu partout, des migraines constantes, une douleur au niveau des cervicales, des choses comme ça, et qui ne sont pas explicables médicalement. Alors qu'on ne va rien trouver, on ne sait pas d'où ça sort. Bah, c'est souvent des émotions qui se sont enfouies à l'intérieur de nous.
Ah, c'est intéressant, ça. C'est vrai que ça arrive. Alors ça, c'est un thème. Pareil, ça pourrait être une émission rien que sur ce thème-là, parce que parfois avec les années, etc., on accumule du stress ou des émotions, et puis on va avoir des douleurs, et alors on a un parcours médical de fou, on ne détecte rien du tout, et on est toujours avec, et d'ailleurs on finit par croire que c'est nous en fait, en se disant ouais, le problème c'est nous, bon ok, mais je suis pas fou, j'ai quand même ça, et donc une des explications, selon vous, Déborah, c'est que on n'a pas accueilli comme il fallait les émotions, on l'a enfoui et elle ressort, on va somatiser.
Oui. Ça peut, alors c'est pas l'explication ultime, mais ça peut participer. C'est-à-dire qu'on somatise dans notre corps et ça génère une sorte de pression. Vous savez, quand on a une émotion et qu'on la remballe en fait à l'intérieur et qu'on l'exprime pas et qu'on l'accueille pas, ça fait une sorte de compression intérieure. Et donc forcément, on va avoir des douleurs qui vont apparaître. C'est souvent localisé au niveau des cervicales, au niveau de la mâchoire, au niveau de vraiment de la sphère cervicale.
Ah d'accord, c'est intéressant. Bah, si vous êtes concerné, voilà, lâchez les émotions, relâchez vos émotions, accueillez-les, exprimez-les. Ouais. Voilà, dans l'artistique, par exemple, ou le verbal, vous les écrivez si vous pouvez pas le dire, ou voilà, il y a plein de techniques. Alors, est-ce que chacune justement de nos émotions signifie quelque chose? Est-ce que il faut être vigilant à cela?
Mais c'est extrêmement important. Chacune de nos émotions ont des besoins vraiment précis. Et donc, il faut savoir que si on n'accueille pas l'émotion, on ne peut pas répondre à ce besoin. C'est quasiment, très difficile. Et donc, c'est-à-dire, sans être OK avec le fait de vivre et de nous laisser traverser par l'émotion, bah, on va tout le temps être dans le même mood, dans le même cercle vicieux. Et si on ne répond pas à ce besoin, l'émotion revient encore et encore. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait. C'est vraiment une boucle bouclée, quoi. On peut appeler ça une boucle bouclée. On tourne en rond. Et à un moment donné, il faut mettre en place quelque chose de différent qui, comme c'est différent, perturbe un peu dans les débuts, mais qui, avec le temps, constitue un nouveau mode de réponse émotionnelle.
Est-ce qu'on est prêt à ça? Parce que quand il y a une émotion difficile, ne pas prendre la fuite ou en tout cas l'accueillir en pleine face, Est-ce qu'on est prêt?
Quand on a l'habitude d'accueillir les émotions, on est prêt. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, hein, mais on va réagir d'une façon beaucoup plus adaptée à l'émotion. Si on nous a pas appris à accueillir l'émotion, l'accueil émotionnel, c'est beaucoup dans l'enfance que ça se passe. Hein, beaucoup, beaucoup. Et donc, si on n'a pas appris ça, c'est très difficile. Et il y a une tonne de personnes qui ne savent pas le faire aujourd'hui. Vous savez, quand on dit à un enfant de ne pas pleurer, ou il ne faut surtout pas pleurer, ou il ne faut pas être triste, il ne faut pas être en colère, on remballe en fait son expression émotionnelle à ces enfants-là. Donc, c'est des personnes, plus tard, ces enfants, qui ne vont pas avoir appris à accueillir leurs émotions, ou alors vont penser que leurs émotions sont quelque chose de pas normal, alors que c'est complètement normal de ressentir ça. Donc, la base, c'est vraiment de le travailler dans l'enfance. Alors, bien évidemment, si on ne l'a pas fait dans l'enfance, c'est pas irréversible. On peut apprendre à le travailler tout au long de notre vie. Mais c'est beaucoup plus simple quand on l'a fait dans l'enfance.
Ouais, enfin, ça me fait penser. La colère, par exemple, c'est quand on est jeune, on nous dit non, mais dès qu'on se met en colère, hop, puni, au coin.
Ça ne va pas, ça.
Parce que c'est un sentiment qui reste jamais. Oui. Il faut la manifester d'une manière qui ne fasse de mal à personne ni à soi-même, mais il faut bien la sûr. Manifester.
Il faut l'accueillir. L'enfant, il a le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être en colère. Tu n'as pas le droit de frapper. Mais tu as le droit d'être en colère. J'entends, je comprends ta colère.
Parce que la colère, ce n'est pas tout le temps la violence. Hein. Faut pas non, fin, ah voyez, non. On peut être en colère et ne pas être violent. Manifester sa colère, ça ne veut pas dire qu'on va être violent. Mais il faut pouvoir la sortir d'une manière ou d'une autre.
Y a l'émotion et il y a en fait l'action qu'on met en place derrière. Effectivement, si on va taper quelqu'un quand on est en colère, c'est un peu le même style que d'aller manger. Hein. C'est-à-dire que, ok, ça répond, mais on n'a pas résolu le problème. La colère, c'est l'émotion en fait qui souligne le besoin d'être entendu. Donc très souvent, quand on est en colère, il faut dire les choses. Il faut dire ce que vous ressentez. C'est un besoin d'être entendu par X chose, quoi. Ça dépend le contexte que vous vivez, mais c'est ça le besoin qui est derrière la colère. Alors, et très souvent, la colère, c'est une émotion qui est assez utile parce que ça permet de mettre en place une action pour changer. Quand on est en colère, après quelque chose, je ne sais pas, une situation où on en a marre, on a une colère qui se déclenche, on va mettre en place une action pour changer cette situation.
Alors justement, vous parlez des actions, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour nous, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme astuce pour nous aider à accueillir, comme vous dites, nos émotions?
Alors, il y en a plein, hein, il y a plein de choses. Alors, la méditation est quelque chose d'extrêmement utile et c'est validé scientifiquement, ça. Il y a l'écriture, écrire ce qu'on ressent, ça aide beaucoup à accueillir l'émotion. Le dessin, vous savez, les mandalas, ça peut aider, même le dessin, sans parler de mandalas. Le sport, aller marcher, aller courir. La musique ou toute autre action en réalité qui ne court-circuite pas notre mental. Aller regarder un film, ça ne marche pas, on n'accueille pas l'émotion. Aller lire un bouquin, on n'accueille pas l'émotion parce que on se met dans une réflexion différente. On essaye de penser à autre chose. Et donc, ça, c'est associé à de la fuite émotionnelle. Ça ne fonctionne pas. Donc, si on essaye de plus penser de manière générale, on fuit ce qu'on ressent. Et donc, tout le principe, c'est vraiment d'accueillir et de ne pas fuir, mais d'être connecté, en fait, avec nos ressentis corporels. Bien évidemment, si c'est trop dur à travailler seul, ce qui est souvent le cas, on peut tout à fait décider de se faire accompagner par des professionnels compétents. Hein.
Alors, c'est intéressant. Par exemple, pour terminer, la fréquence de visites pour que ce soit effectif, parce qu'on se dit, bon, déjà, un, c'est un budget, deux, on n'a pas le temps. Si on le fait une fois tous les 6 mois, ça ne sert à rien. Quelle est une fréquence moyenne acceptable, et économiquement, et en termes d'aménagement du temps, pour qu'on, voilà, ce soit significatif?
La fréquence d'accompagnement, vous dites?
Oui, tout à fait.
Alors, ça dépend des personnes, mais moi, pour parler de ma pratique, de manière générale, quand je travaille sur le comportement, l'idéal, c'est toutes les 2 semaines.
Oh ben ça va.
Dans les débuts. Et puis, bien évidemment, après, plus on devient autonome et plus on espace. Mais c'est vrai que dans les débuts, comme c'est du comportement, si on se laisse tous les mois ou tous les 3 mois, en fait, le patient décroche, en fait. C'est pas pertinent pour lui. Donc, toutes les deux semaines, c'est un bon rythme en général.
Pour démarrer, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Déborah Oana, qui, je vous rappelle, est diététicienne, hein, qui vous pouvez consulter, vous faites à Doctolib, même sur Google, vous êtes tellement référencé, tellement connu, tellement là-haut que, ben voilà, on vous trouve, qui vous cherche, vous trouve, j'ai envie de dire. Et en l'occurrence, vous êtes sur Nutri Radio et on va vous retrouver la semaine prochaine pour une autre émission de Tout va bien, mangeons. Au revoir, Déborah.
Au revoir Fabrice.
Cette émission, je vous le rappelle, vous la retrouvez en podcast dans son intégralité à la fin de la semaine, à partir de dimanche soir, aux alentours de 19h sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts, et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
Tout va bien. Mangeons. Déborah Oana sur Nutri Radio.